Genève. Côté. Nature.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Cité, j'ai nommé Genève Côté Nature. Je m'appelle Émilie et je suis la fondatrice de l'association NARIES qui travaille pour la protection de l'environnement sur Genève depuis plus de 10 ans. C'est avec ma sœur Virginia,
bonjour,
que nous avons lancé NARIES pour non seulement contribuer à la protection des espèces sauvages en danger, de par notre formation de biologiste de terrain, mais également pour sensibiliser notre public à l'impact de notre société sur l'environnement.
Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de mettre notre pierre à l'édifice de la sauvegarde de notre planète. On peut être soucieux de notre quotidien, en chauffant moins son logement, en faisant attention à notre utilisation de véhicules à moteur, ou en réduisant ses déchets. On peut aussi faire attention à notre environnement en direct, et c'est justement le sujet du défi de la semaine dans notre Eco-Challenge 2022, reconnaître 3 oiseaux différents pendant la semaine.
Oui, c'est important d'ouvrir les yeux et d'observer la nature. Chez NARIES, nous pensons que c'est en connaissant que nous pourrons protéger. Et c'est en observant que l'on peut connaître. Si on commence à s'intéresser au monde animal ou végétal qui nous entoure, on verra rapidement que chaque organisme est lié aux autres et que chaque élément a son importance, voire sa nécessité dans l'écosystème. Tout est en équilibre, tout est connecté, tout est capital.
Observez donc votre environnement, même urbain, et essayez de repérer 3 oiseaux différents pendant la semaine. Si vous avez besoin d'aide pour les reconnaître, suivez NARIES sur les réseaux sociaux. Nous posterons la description d'une espèce d'oiseau par jour pendant cette semaine. Cherchez-les et si vous le souhaitez, faites des photos si vous y arrivez. Nous serons ravis de voir vos trouvailles quand vous taguerez le @associationNARIES, #EcoChallenge2022 et #NARIES-CH.
Dans les efforts que nous pouvons faire au quotidien pour réduire notre impact sur notre planète, il y a bien sûr tout le côté alimentation. Légumes locaux et de saison, sucre responsable, emballage plastique inutile et bien sûr la viande. Consommer de la viande est extrêmement mauvais pour la planète parce que les élevages de bovins sont synonymes de pollution à tous les niveaux. Les animaux boivent quantité d'eau pour ne fournir que peu de nourriture,
jusqu'à 15 000 litres d'eau pour 1 kg de viande en incluant ce que l'animal boit et l'empreinte écologique de sa nourriture.
En plus, c'est pas non plus top pour notre santé. Risque de maladies cardiovasculaires augmentées, cancer, diabète, etc., etc. Voilà certaines pathologies qui peuvent se déclarer si on mange trop de produits carnés.
Et à côté de la viande, à part entière, il y a toute la problématique des produits dérivés des animaux, notamment les fromages. Outre les intolérances qui peuvent exister chez certaines personnes, ils sont riches en matières grasses saturées, en sodium, à consommer donc avec modération si on ne veut pas souffrir d'obésité et encore ici, de problèmes cardiovasculaires et de diabète.
Mais une alternative existe ici, à Genève, ce sont les fromages véganes. Pour vous les présenter, nous sommes allés, pour le côté passion de cette semaine dans Genève Côté Nature, rendre visite à Malena, qui a créé la crèmerie végane.
Bonjour Malena.
Bonjour.
Alors évidemment Malena, on est ici pour parler de ta crèmerie, qui est très particulière, mais avant ça, on aimerait te connaître un petit peu mieux. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu où est-ce que tu as grandi et est-ce que c'est ta famille qui t'a transmis le respect des animaux? Enfin, raconte-nous un petit peu qui tu es.
J'ai grandi dans une famille avec un papa qui est végétarien, une maman qui n'était pas végétarienne, mais toute la famille l'est devenue avec les années. Et donc, à l'âge de à peu près 11 ans, j'ai décidé de devenir végétarienne parce que j'ai compris que mon père l'était. Il m'a expliqué les raisons pour lesquelles il était végétarien. Et j'avais des animaux qui étaient dans une petite cage à la maison, mais on était sensibles déjà aux animaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait la transition végétarienne. Et puis, quelques années sont passées. Puis un jour, on nous diagnostique des problèmes de santé. On nous demande d'arrêter les produits laitiers pour des raisons de santé, et en s'intéressant à cet aspect-là de la santé, j'ai découvert toute l'éthique animale derrière sur l'industrie laitière. Je n'avais pas connecté avec les raisons qui m'avaient amenée à devenir végétarienne, et donc ça a été ma plus grande claque 15 ans après de me dire que pendant 15 ans j'avais été végétarienne pour les animaux mais que j'avais pas fait le lien avec le lait. Donc okay. Voilà, je vous résume quand même 30 ans comme ça. Mon papa était végétarien déjà à une époque où en Égypte, on ne parlait pas de ça. C'était il y a plus de 40-50 ans et donc la passion culinaire ou l'attrait gourmand des bonnes choses vient autant de mon père que de chez ma mère. Mais donc mon père a été confronté à l'absence de viande, à l'absence de recettes, d'internet. Et c'est lui qui à l'époque avait fait son premier tofu, donc en faisant quelques recherches comme ça, juste par lui-même. Donc c'est intéressant de voir qu'il avait quand même déjà commencé cette démarche il y a plus de 40-50 ans en Égypte. Et donc c'est dans sa démarche naturelle d'aller d'essayer de trouver des bonnes choses à manger.
C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément maintenant, parce qu'on a toutes les recettes sous la main, c'est avec ça. Internet, avec les livres, avec les mille et une découvertes qu'on a tous les jours.
Quand on cherche une recette de lait végétal, on la trouve à portée de main, tout est expliqué, effectivement. Donc là, c'était à tâtons, il y a déjà une 40-50 ans, à l'époque où l'OMS encore disait que c'était pas bon pour la santé d'être végétarien.
D'accord, ça c'est intéressant. Alors c'est vrai que nous aussi on est végétarienne depuis plus de 20 ans. C'est vrai que c'est une démarche qu'on avait eu envie de faire depuis très longtemps. Puis sans méchanceté, notre maman nous disait « Mais vous vous rendez compte que vous allez devoir vous passer de poulet rôti, de côtelettes d'agneau, de sauce bolognaise ?» Et on était encore trop jeunes jusqu'à ce qu'il y ait eu un déclic et qu'on prenne la conscience de « Non, en fait, je ne veux pas consommer d'animaux. » Donc est-ce que tu peux nous faire le lien entre ça et le végétalisme ?
Ben, je pense qu'effectivement, il y a la tradition. On mange 3 fois par jour. On mange des recettes qu'on nous apprend. Et donc, c'est quelque chose qui se transmet dans les familles de génération en génération. Quand on parle de la Madeleine de Proust, c'est qu'on va vraiment chercher un souvenir, une saveur qui est bien ancrée dans nos émotions et nos souvenirs. Donc, il y a déjà ça. Et puis, c'est compliqué dans la tête de dire que si on arrête un plat ou on coupe aussi à cette tradition-là. Il y a autre chose. Je pense qu'il y a aussi une désinformation. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le choix il y a quelques années de devenir végétarienne pour les animaux parce qu'elles ne veulent pas faire souffrir les animaux.
Oui.
Mais si on réfléchit bien aux conséquences en fait, de l'élevage intensif ou pas, on se dit que par exemple, un cochon qui est élevé en plein air, il va souffrir sur le transport et sur l'abattage, donc sur la fin de sa vie. On part du principe que sur le restant de sa vie, il va à peu près manger bien, à peu près vivre bien.
Oui.
Voilà. Une vache, pour le lait, elle est en souffrance continue, c'est-à-dire qu'elle va constamment souffrir. On la sépare de son petit, on la fait avoir du lait bien plus qu'elle ne pourrait en produire, et puis au bout de quelques années, elle n'est plus assez rentable, et donc elle passe à l'abattoir. Donc je pense qu'elle est beaucoup plus en souffrance, et que ceux qui veulent le faire pour les animaux auraient meilleur temps de faire ce calcul-là, de se dire qu'en fait, on va arrêter les produits laitiers, on mange de la viande de temps en temps. Enfin, c'est pas ce que je recommande, bien évidemment.
Non, mais effectivement.
Mais c'est le raisonnement qu'on pourrait. Donc, je pense qu'il y a de la désinformation. On n'est pas informé. C'est pas la faute aux personnes. C'est la faute au marketing. C'est la faute au lobby. C'est eux qui ont tout fait pour nous dire qu'il fallait manger 4 à 5 produits laitiers par jour. Donc voilà. Je pense qu'il y a un problème de désinformation et puis il y a un attachement à la tradition. Et je pense que la tradition française, la gastronomie française, est celle qui est la plus difficile à faire changer. On voit qu'aujourd'hui, elle change quand même. Donc pour moi, le jour où la gastronomie française change, évolue, c'est qu'on aura quand même franchement bien avancé.
Donc chez Nariès aussi, le bien-être animal est vraiment un combat de tous les jours. D'ailleurs, on aurait pu se rencontrer dans ce domaine. Il se trouve qu'on s'est rencontrés dans tout autre cadre, celui du Kino Festival, donc un laboratoire de court-métrage. Parce qu'il faut le dire, tu te destinais d'abord à tout autre domaine, celui du cinéma. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette passion et de comment tu es passée de la caméra à une crèmerie végane?
Oui, alors déjà, le cinéma n'était pas tout à fait au programme. Alors, j'ai grandi dans une famille cinéphile, donc j'ai grandi avec des films, du cinéma, de la culture. J'ai commencé à faire du théâtre, puis j'ai terminé derrière la caméra à faire du cinéma, de la mise en scène. Et en fait, effectivement, la crèmerie, elle n'était pas au programme. C'est les problèmes de santé, c'est le fait de devoir faire du fromage chez nous, le bouche à oreille, qui a pris et qui a fait que nos produits se sont fait connaître. Mais j'ai pas pour autant abandonné le cinéma, dans le sens où, en fait, tout ce qui m'a passionné dans le cinéma, c'est la communication en fait. C'est comment est-ce qu'on touche au regard de quelqu'un, comment est-ce qu'on capte le regard, ou est-ce qu'on peut lui permettre de changer de point de vue. C'est en ça que j'aimais beaucoup les spots de sensibilisation par exemple, parce qu'on a un temps donné, c'est un challenge, il faut quelques secondes pour essayer de communiquer avec les gens. C'est ce qu'on fait à travers les réseaux sociaux, c'est d'envoyer une image. Est-ce qu'on le fait de façon authentique? Est-ce qu'on lisse l'image? Est-ce qu'on la laisse brute? C'est des petites choses comme ça que je me posais comme question au moment où je faisais du cinéma. Et puis je pense que toutes les compétences de communication, je les les ai mises au service de l'entreprise. Alors évidemment, faire une entreprise, c'est pas faire un film, hein, on s'entend, mais j'ai quand même l'impression de pouvoir mettre ma créativité artistique au service de l'entreprise à des endroits par-ci, par-là. Et puis le cinéma, je le laisse de côté, mais je le reprendrai.
D'accord. Et donc finalement, donc c'est effectivement pour ta crèmerie qu'on est venu te voir aujourd'hui. Alors présente-la nous un peu. Tu l'as montée avec ton père et un ami, et on y trouve donc des fromages et des produits laitiers que je vais mettre entre guillemets, mais ils sont très particuliers. Alors quel est le principe autour duquel tournent tes produits ?
Alors effectivement, on a monté cette entreprise à trois avec mon associé Mourad Cheraït, avec qui on tient, en fait c'est nous deux qui faisons tourner le magasin, qui produisons ensemble, et mon papa qui avait créé les recettes et qui est aujourd'hui à la retraite et qui nous aide encore un petit peu en graphisme puisqu'il est graphiste. Le principe, c'est de manger lacto-fermenté, parce que c'est quand on était malade, ces problèmes de santé nous ont amené à consommer lacto-fermenté. La lacto-fermentation, c'est pas qu'il y a du lait dedans, c'est parce qu'il y a le mot lacto, c'est par exemple le principe de la choucroute, des cornichons. Donc le principe, c'est de faire lacto-fermenté de la noix de cajou. En fait, le travail est exactement le même qu'en fromagerie traditionnelle. On n'a absolument rien inventé. C'est juste qu'on part d'une matière première qui est différente, et ce qui nous fait éviter l'étape de la présure aussi. Donc on part de la matière première qui est de la noix de cajou, on rajoute un ferment, on fait affiner dans une certaine température, selon une certaine durée. Et donc voilà, les ingrédients, c'est de la noix de cajou, de l'eau, du sel, du citron et des ferments. Donc on est sur 5 ingrédients. Et le reste du travail, c'est de la fromagerie traditionnelle.
D'accord. Alors c'est vrai que Virginie et moi, donc on l'a dit, on est végétarienne depuis plus de 20 ans, mais j'avoue qu'on a bien du mal à se passer des produits laitiers. Alors déjà, Virginie a un mari breton pour qui le beurre salé est une divinité. Et évidemment, on raffole tous de notre gruyère suisse et on vénère la fondue moitié-moitié. Mais il est vrai que tes fromages, ou plutôt tes affinés, comme tu les appelles, donnent l'eau à la bouche. Alors, dis-nous un peu les produits phares de ta boutique.
Alors, quand on arrive à la crèmerie, nous, on a derrière une vingtaine de recettes qu'on peut à peu près toutes faire. Certaines sont à réajuster, sont sous forme d'études, qui sont encore en cours de recherche, qui n'ont pas encore été figées. Donc, quand on arrive à la crèmerie vegan, on trouve des cream cheese, donc des fromages frais, blancs battus, version nature, ail et fines herbes. Le produit phare, ça reste la tome, la bûche façon chèvre, la fondue. Il y a la dame tartine qui est en fait notre base à fondue, c'est une crème qui est plus dense que les autres crèmes, qui a plus un goût de chèvre, un goût de fromage, et donc on utilise comme base pour faire des chèvres chauds, pour faire la fondue. Et le jour où on lancera la raclette, parce qu'elle est sous forme d'étude depuis un petit moment, c'est juste qu'on est deux à tout faire, donc on n'a pas le temps d'avancer dans les délais qu'on se donne, mais le jour où on sortira la raclette, elle sera sans doute aussi à base de dame tartine.
D'accord, génial.
Ah mais c'est excellent.
Il y a un petit produit aussi que j'ajoute, c'est vrai que qui est souvent mis en avant et j'en ai pas parlé, c'est la mascarade qui est quand même utilisée souvent dans les pâtisseries.
Ah ouais. Et donc tout ça vous les faites ici à l'arrière boutique dans votre laboratoire.
Exactement. Alors on a un petit espace, on est à moins de 100 mètres carrés et on a clairement besoin de nous étendre sur une surface de 5 fois plus grande.
Waouh. Ah ouais, jolie ambition.
En fait, le fromage, c'est un produit qui dort dans de l'armoire, c'est de l'argent en fait, qui dort dans les armoires. L'affinage, c'est du temps et de l'espace.
C'est ça.
Donc, pour le moment, on ne trouve pas de pâte dure chez nous, précisément parce qu'on manque d'espace pour pouvoir faire affiner nos produits. Donc, si on avait effectivement 5 fois notre espace, on aurait de quoi pouvoir faire des caves d'affinage et là, proposer vraiment un fromage plus à pâte dure et à la coupe.
Miam. Et puis là, on reviendra pour faire une deuxième émission pour les pâtes dures.
Avec grand plaisir.
Donc c'est vrai que là, dans les vitrines de ton magasin, on voit vraiment des choses très alléchantes. On va faire maintenant juste une courte pause musicale, comme il est de tradition dans nos côtés passion, et on enchaînera après sur la suite de cette émission. Alors Malena, est-ce que tu peux nous présenter une chanson ?
Oui, alors je vais vous présenter la chanson d'une chanteuse que j'aime particulièrement, que j'ai découvert récemment. C'est pour moi l'une des plus grandes chanteuses qui existent aujourd'hui. Elle s'appelle Laura Cahen. La chanson, alors j'aimerais juste citer Le Réverbère, c'est pas celle qu'on va entendre, mais Le Réverbère est très belle parce qu'elle a un aspect cinématographique comme ça, de couplet en couplet. Mais là, on va entendre la chanson avec laquelle j'ai découvert Laura Cahen pour la première fois. C'est son duo Les Coquelicots avec Yael Naïm.
Très bien, alors on écoute ça.
Radio Cité Genève.
Reste-t-il que les épines ou un grand feu de bois? Bourgeons un beau jour la glycine, danse sur le toit. Dis quand refleuriront les coquelicots? suis dans tes bras. Pétales envolés, les racines du sol s'en vont parfois.
Laura Cahen avec les Coquelicots, qui sera d'ailleurs en concert à Voix de Fête le 17 mars. Vous êtes de retour dans Genève Côté Nature, l'émission verte que l'association Nariès vous présente chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes dans un côté passion et nous sommes allés rencontrer Malena Azam, qui tient la première crèmerie végane de Genève. Dans la première partie, nous avons parlé un petit peu de ton enfance, Malena, de tes premières amours, qui étaient donc le cinéma. Et finalement, on a un petit peu passé en revue les différents produits que tu proposes ici, à la crèmerie végane. Alors, est-ce que tu peux rapidement nous redire un petit peu la panoplie d'affinés qu'on peut trouver dans tes vitrines pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre ?
Alors, on trouve du fromage frais, on trouve une tome, style tome vaudoise. On retrouve des bûches un peu façon chef, de la fondue, une alternative au mascarpone, du yogourt, de la labneh. Voilà, on trouve un peu des crèmes. Pas assez de pâte dure, mais à venir.
Donc on en a parlé avant, ces produits sont faits à base de noix de cajou que tu lactofermentes. Et en dehors de tes fromages ou de tes affinés, tu proposes aussi d'autres types de crèmes. Et surtout, tu as de nombreux partenariats. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ?
Alors oui, on a des partenariats. On a par exemple tout un partenariat côté traiteur avec Marilé de chez Patmani qui fabrique des empanadas, des tartelettes avec, alors vous avez par exemple le épinard avec le crémaillé et fines herbes. Vous avez les oignons avec la fondue sous forme de tartelettes, d'empanadas ou des ravioles qu'elle fait, des raviolis qu'elle fait à la main. On a eu un partenariat avec la bonbonnière par exemple au mois de décembre sur une bûche de Noël. Et il y a une autre pâtissière avec qui on a commencé un très beau partenariat. C'est un petit cheesecake qui est fabriquée à base de crème nature et de mascarade. Et donc, elle travaille beaucoup avec nos produits qu'elle valorise dans ses créations. Elle fait des créations style pâtisserie française qu'il faut absolument goûter. Et voilà, pour les partenariats, il y en a d'autres. On est parfois appelé par des établissements qui sont typiquement suisses, avec une identité chalet suisse. Donc là aussi, c'est hyper valorisant pour nous d'être appelé par des entreprises qui sont pas du tout végétariennes et qui portent encore les traditions suisses.
Et c'est vrai que quand on voit passer les photos de tes créations ou des créations de tes partenaires sur les réseaux sociaux, c'est juste magnifique, les bûches de Noël étaient incroyables à tomber par terre de beauté.
Oui, et ce fameux cheesecake passion que tu as fait pour la Saint-Valentin.
Alors, je tiens à dire que ce petit cheesecake passion, Charlène, c'est La Douceur by Charlène qui le réalise. Elle l'a présenté au concours Vego Resto. C'est un concours de pâtisserie végétale de France. Et puis, il a été primé parce qu'elle a été vice-championne de ce concours de pâtisserie. Donc, il a été validé, ce cheesecake. Et nous, on le valide tous les jours encore.
D'accord. Et nous, on se réjouit de le valider aussi.
Oui, ce soir, dès qu'on rentre à la maison.
Donc, effectivement, ta crèmerie marche plutôt bien. Les clients affluent d'un peu partout. Et tu as aussi des partenariats avec des restaurants, tu nous en parlais avant, qui viennent chercher tes produits.
Oui, voilà. On travaille parfois avec le restaurant Le Grutli, Le Remords, avec le Théâtre de l'Orangerie en période de saison. Ça dépend des chefs. Des fois, ce sont des liens qu'on établit avec les restaurants, des fois avec les chefs. On suit les chefs qui bougent. Mais oui, on a des restaurants qui nous font confiance et d'autres établissements. On a d'autres partenariats très beaux à venir, mais je ne me prononce pas encore.
Surprise, surprise. Donc, c'est super d'avoir tous ces produits. Et est-ce qu'on peut reparler un petit peu de la raison pour laquelle il est vraiment utile, nécessaire de limiter notre consommation de produits laitiers classiques
en dehors du bien-être animal, justement, parce que c'est aussi pas forcément bien pour notre santé?
Oui. Alors, en fait, la raison principale pour moi, c'est les animaux, c'est l'éthique animale, mais ce qui m'y a amené, c'est la santé. Je dirais qu'en fait, il n'y a pas une bonne raison d'y arriver. On a tous notre parcours, notre histoire, nos raisons d'y arriver. Ce qu'on constate en revanche, c'est que peu importe par quel chemin on y arrive, on accède aux autres. C'est-à-dire que si on y va pour la santé, on va forcément faire du bien aux animaux, on va forcément faire du bien à l'environnement, on va forcément faire du bien à l'économie. Si on y va pour des raisons économiques, on va forcément faire du bien à tout le reste. Donc peu importe par quel chemin on y arrive, on y arrive. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Et c'est de se dire aussi que si on se rend compte que ça génère une harmonie, un équilibre, ça veut dire que c'est la voie qu'il faut emprunter. En tout cas, ça indique que c'est la voie qu'on pourrait emprunter, qu'on devrait emprunter. Donc, les animaux, c'est la première raison, parce que ce sont des individus qui sont en souffrance, parce que ce sont les premiers individus auxquels on peut s'identifier. Ensuite, il y a les raisons de santé. C'est hyper important d'être en bonne santé. Nous sommes des animaux aussi, donc c'est important qu'on respecte aussi notre bien-être.
Mais du coup, qu'est-ce qui concrètement est mauvais pour la santé dans les produits laitiers ?
Alors en fait, il faut savoir que d'abord, le lait, il vient d'une femelle, avant tout, et que la femelle, si elle produit du lait, c'est pour nourrir son bébé. Donc dans le lait, on retrouve des aliments nutritionnels qui permettent de faire grandir un bébé. Pour l'exemple, un veau va prendre 300 kilos en une année. Donc ça veut dire que tout le lait qu'il va trouver dans sa mère, la vache, c'est pour lui permettre d'accroître ses muscles, de le faire grossir, de prendre 300 kilos en une année. Nous ne sommes pas des veaux. Et ce qu'on va,
ah bon,
est-ce qu'on va avaler ne va pas nous faire du bien, on ne va pas le digérer de la même façon qu'un veau. C'est pour ça qu'il y a des médecins qui préconisent plutôt le lait de brebis, parce que la brebis est plus petite. Donc on va prendre en fait des éléments nutritionnels qui vont moins nous attaquer, moins nous faire du mal, parce qu'on va pas...
On ne vise pas les 300 kilos.
Il faut savoir aussi qu'un lait, donc une fois que le bébé a pris son lait et qu'il a grandi, il n'en a plus besoin, il arrête, tous les animaux arrêtent. C'est ce qu'on appelle le sevrage. Donc tous les animaux passent par l'étape de sevrage, sauf l'espèce humaine. On est la seule espèce qui continue à aller s'approvisionner en lait auprès des autres espèces, et on prive du coup des bébés de ce lait. Donc pour moi, c'est cette éthique-là qui est la plus importante. J'invite toutes les femmes humaines à s'interroger, parce qu'elles sont les premières à pouvoir se mettre à la place des animaux, des autres femelles dans les autres espèces humaines, et se rendre compte que quand on a un lait qui sort du sein, il y a cet instinct maternel ou animal qui fait qu'il y a un bébé qui est là pour le téter, et que quand le bébé n'est plus là, il y a une souffrance qui est générée parce qu'on n'arrive pas à protéger ce bébé. Il ne s'agit pas d'aimer le bébé, mais il s'agit de le protéger, et ça fait partie de ça. Donc voilà, la raison première pour moi, c'est l'éthique animale, c'est qu'on n'en a pas besoin. Voilà, tout simplement dit.
Eh bien, nous voilà tous bien avertis. En tout cas, pour notre part, on va regarder un peu plus en détail tes produits avant de repartir de ta crèmerie. Et en attendant, on te remercie énormément, Malena, de nous avoir accueillis ici et de nous avoir présenté tes affinés.
Et merci à vous pour votre visite et votre enthousiasme.
Et chers auditeurs, si vous souhaitez venir dire bonjour à Malena, elle se trouve à la rue de la Ferme, vers l'hôpital. Et Malena, quels sont tes jours et tes heures d'ouverture ?
Nous sommes ouverts du mardi au samedi. Le mardi, à partir de 14 jusqu'à 19h. Les autres jours, de 11h jusqu'à 19h. Et le samedi, on ferme un peu plus tôt, à 18h30.
Eh bien, très bien. Concernant les activités de Nariès, nous sommes dans la 10e semaine de l'année, et donc le défi de la semaine est de reconnaître 3 oiseaux différents. Donc il va falloir lever la tête pendant vos promenades pour les repérer. Pour vous aider, Narias propose une fiche oiseau par jour sur les réseaux sociaux pour vous montrer comment reconnaître quelques espèces. N'hésitez pas aussi à nous poser des questions ou à nous envoyer des photos si vous avez besoin d'aide pour les identifications. Et comme toujours, postez vos trouvailles sur les réseaux sociaux en taguant @associationnaries, #EcoChallenge2022 et #Narias-CH.
Dans les rendez-vous prochains, le vendredi 18 mars, Narias sera présente au marché des 4 saisons de Pupelinge de 16h à 19h. Nous vous y proposerons un aperçu de notre boutique écologique avec des produits zéro déchet, des shampoings solides, des bougies recyclées, de la déco écolo et des cosmic kits à offrir.
Nous avons aussi les inscriptions à la prochaine sortie nature qui sont ouvertes. Nous irons le 20 mars à Chêne-Bougerie dans le parc Stani pour découvrir la faune urbaine et les adaptations incroyables que les espèces des parcs utilisent pour vivre au milieu des humains. Toutes les informations sont sur notre site internet www.naries.ch.
On va se quitter maintenant. Alors Malena, on te remercie encore de nous avoir présenté ta crèmerie vegan. On rappelle que tu es aussi présente sur les réseaux sociaux et que c'est d'ailleurs par ce biais qu'on peut atteindre ta boutique et commander tes produits.
Oui, absolument. On est un site qui est en construction depuis une longue date parce que mon associé et moi-même sommes que deux à tout faire. Mais le site sera bientôt publié et donc il y aura plus d'informations que ce qu'on trouve actuellement sur le web.
Très bien.
Eh bien, merci de nous avoir suivis aujourd'hui, chers auditeurs, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Côté Vadrouille. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Genève. Côté. Nature.